bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léla Kadour-Boudadi.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour Daniel.
Daniel, justement, bonjour, je suis surpris.
Bonjour, Léla.
Tom Villa.
Bonjour.
Tom Guy Pastureau sera là tout à l'heure. Et nos invités Mélanie Douté et Jean-Paul Roux. Comment allez-vous déjà, Mélanie Douté?
Oh, bien. Oh. Oh, je suis bien.
C'est gênant tellement vous allez bien, c'est
oh,
ça.
Ah ouais.
Et Jean-Paul Roux.
Les oreilles bouchées.
Bah, prenez l'autre.
Non, mais c'est vrai,
les deux
je viens de la piscine et puis ça fait une demi-heure et ben j'arrive pas à...
Quelle drôle d'idée.
Vous alors, avez quoi
tu
comme
vas à la piscine?
Oui, j'en viens là.
Il faut se pencher pour
mais
que
non,
l'eau
ça marche
sorte.
Pas.
Ah bon, il faut se boucher
Daniel
le nez.
Doit avoir une autre solution
se
bien
boucher,
dégueulasse à me proposer.
Se boucher le nez et souffler.
Je peux te souffler dans le nez.
Boucher et souffler. Donne-moi des ailes réalisées par Nicolas
Vanier. Faut respirer maintenant, Jean-Paul.
Donne-moi des ailes, Nicolas Vanier, le cinéaste explorateur, celui qui aime les grands espaces avec Mélanie Douté. Jean-Paul Rouve, donc, nos invités, mais également Louis Vasquez, Frédéric Sorel, Lilou Fogli, Grégory Baquet, Dominique Pinon. L'histoire d'un scientifique que vous incarnez, Jean-Paul, et surtout l'histoire d'un couple séparé. Vous êtes tous les deux en couple séparé, vous êtes les parents d'un petit enfant joué par Louis Vasquez.
Un ado, ouais.
Et un ado, ouais, c'est ça, ouais. Un ado, très branché d'ailleurs vidéo, pas
oui.
du tout branché nature,
non.
Et qui va découvrir la folle idée de son père scientifique, c'est-à-dire sauver les oies sauvages.
Exactement.
Et l'aider dans cette quête.
Exactement. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Vous avez tout dit, Naï.
Non, j'ai pas tout dit.
Non, vous avez pas tout dit. Oui, oui, bah, c'est inspiré d'une histoire vraie. Pas avec l'histoire avec mon fils et avec mon ex-femme, hein, mais l'histoire, c'est Christian Moulec qui a fait ça, qui a tenté ça, qui a élevé des oies pour qu'elles suivent son ULM. Pour leur changer leur chemin migratoire, pour qu'elles évitent de se faire décimer par les chasseurs, par la pollution, enfin visuelle, par tout ça.
Ouais.
Et c'est ce qu'on fait dans le film.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'un ULM, on retrace la route naturelle instinctive des oies.
Alors, en fait, oui, c'est ça. Les oies sont, imprégnées, c'est le terme. Les oies, quand elles naissent, la première personne qu'elles voient, elles considèrent comme leur père ou leur mère. Et ce que faisait Christian, c'est qu'il mettait, quand les œufs étaient en couveuse, il mettait un magnétophone avec un bruit de moteur du LM pour qu'elle s'habitue à ça.
Comme dans le film.
Comme dans le film. Et ensuite, il leur apprenait à voler, comme si c'était leur mère, avec l'ULM. Donc comme ça, après, les oies le suivent. Et lui,
c'est
il
génial.
Prenait... C'est dingue, hein. Et
instinct.
Donc les oies migrent, évidemment, ouais. pour aller se reproduire. Et lui, il dit, on va changer le chemin qu'elles prennent depuis des millénaires, parce que ce chemin, il est trop dangereux pour elles aujourd'hui.
Et bah, en une fois
Pas en une fois.
En un chemin... Ah, pardon, d'accord.
Deux fois.
D'accord.
Apparemment, deux fois... Uh-huh. Elles arrivent à se souvenir.
Deux fois pour effacer des milliers d'années. De...
Et elles vont refaire le chemin au mètre près. C'est-à-dire, elles ont un GPS dans la tête. C'est hallucinant, la nature.
C'est magique.
C'est magique.
C'est magique. Mélanie, qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce film, dans le projet tel que Nicolas Vanier vous l'a présenté?
Bah, déjà, Nicolas Vanier. C'est quelqu'un qu'on ouais. rencontre, c'est un aventurier, c'est quelqu'un d'une générosité et qu'il est, enfin, il ment pas sur le personnage en fait qu'on voit à l'image ou dont on lit les bouquins. C'est quelqu'un de très simple, très abordable, qui est très drôle, qui est hyper généreux, c'est un humaniste. Et donc dès qu'on le rencontre, on a envie de partir, on a de partir avec lui à l'aventure, quoi. Et puis de travailler avec Jean-Paul, ça m'a fait très plaisir aussi.
Et puis il y a des images qui sont totalement dingues. On en reparlera aussi ouais. sur le mode de tournage, de fabrication, des gros plans d'oies sauvages en plein vol.
Plein vol.
Et tout ça n'est pas trafiqué, n'est non. pas truqué, tout est vrai, on en reparle dans quelques instants. Mais d'abord...
Quoi ?
L'interro.
Oui.
Donne-moi des ailes, je ne l'ai pas dit, sort ce mercredi 9 octobre. Oui, dans deux dodos. Contrairement à d'autres actrices, Mélanie Douté adore quoi ?
Marina ? Le vert.
Non. Ah oui, c'est vrai que les actrices n'aiment pas le vert. Oui, non.
Les acteurs.
Ouais. Contrairement à d'autres actrices, elle adore quelque chose. On se dit, non, les actrices n'aiment pas ça.
Paparazzi.
Les scènes
non.
de nu?
Non.
Pardon, j'ai répondu de façon très, très générale, en fait. C'était pas tant pour
qu'est-ce
vous, Mélanie.
Les producteurs de cinéma.
Je sais pas.
J'aime bien l'idée de. Alors, Mélanie Douté, vous adorez scènes de nu. J'adore.
Moi, j'adore.
Surtout quand elle sort
d'un rien. Vous en d'ailleurs. Vite fait.
Ok, ça marche.
J'attends bien d'aguer un iPhone.
Les temps morts, l'attente, il y a
non.
de l'attente tout le temps.
Non, mais c'est dans l'idée, en tout cas. Ouais. C'est quelque chose où on se dit les actrices n'aiment pas
le
ça.
Le casting, elle aime
non.
le casting.
C'est lié au plateau de cinéma?
Non, c'est lié à sa carrière.
Les ratages, les ratés, les films.
Premières fois.
Pardon, il y en a pas, mais.
Les petits budgets.
Non.
Les petites apparitions.
Non.
Qu'est-ce les réalisateurs méchants.
Je vois pas non plus.
Les actrices, qu'est-ce que.
Les acteurs sur mauvaise haleine.
Harvey Weinstein.
Non, Harvey Weinstein. Contrairement à d'autres actrices, bah oui. Mireille Dutheil adore Harvey Weinstein.
Je sais
pas. C'est très drôle.
Le fait de vieillir.
Exactement.
Ah, bravo.
Ça récupère les menus. Ouais.
Le fait de vieillir à poil, c'est un truc. vous dites, ça apporte au contraire des rôles, cette crainte-là de vieillir que peuvent avoir certaines actrices. Vous dites non, au contraire, ça m'apporte des rôles que je ne pouvais pas avoir.
Oui, on aborde des personnages différents. Je suis très heureuse de pouvoir faire des mamans, de pouvoir aborder des rôles. Enfin, voilà, de plus faire les jeunes. Enfin, on peut être amoureuse à n'importe quel âge, c'est pas ça, mais de plus aborder les comédies romantiques de la même façon, quoi. De plus faire les jeunes premières.
Est-ce que c'était toujours un peu le même genre de rôle? Ouais, c'est ça. C'est entre on va dire, 25 et 35 ans, c'est toujours un peu les mêmes rôles qu'on propose aux actrices, alors que
ça dépend des carrières. Mais oui, moi, je trouve que, voilà, on peut aborder plus de choses, des émotions différentes. Et je trouve ça plus intéressant.
Ceci étant, il vous reste de la marge à propos de vieillir. Vous êtes tellement jeune et ravissante.
Nu.
Le problème des vêtements.
On avait dit qu'on n'en parlerait pas, Mélanie. Contrairement à beaucoup de comédiens
non, je dirais plus rien.
Qui détestent quelque chose, Jean-Paul Rouve, lui, adore.
Être grimé?
Non.
Les scènes de nu?
Non.
Harvey Weinstein? On va faire toutes les réponses.
Ouais, on va tout faire.
On dit que les acteurs n'aiment pas ça. Acteurs, actrices.
Pleurer.
N'aiment pas ça. Et lui, il adore ça.
Être chanté. Dirigé de façon un peu dictatoriale?
Non. C'est un rapport direct avec le film Donne-moi des ailes.
Jouer avec des animaux.
Les enfants.
Les enfants.
Exactement. Mais c'est pas à toi de trouver, Jean-Paul.
C'est une bonne réponse.
Et ben, un point pour Jean-Paul.
Je viens de l'apprendre.
Il se découvre.
Oui, j'adore tourner avec des
Monsieur
enfants.
Monsieur Batignolles, Nos jours heureux, donne-moi des ailes. Là, vous aimez ça, jouer avec des enfants.
Ah ouais, c'est super, parce qu'il y a souvent une vérité, souvent avec les petits d'ailleurs. Parce qu'avec les petits, souvent d'ailleurs, on peut pas répéter, donc on laisse tourner. Et j'adore diriger aussi les enfants. C'est-à-dire, on laisse tourner la caméra et puis on attend les moments de vie. Ça vient, on leur parle, on essaie de leur voler des choses.
Alors la légende dit que les actrices, les acteurs n'aiment pas jouer avec les enfants parce qu'ils seront toujours plus sincères que n'importe quel acteur, n'importe quelle actrice.
Ça peut. Et ou un animal aussi, parce que comme il n'a pas conscience de l'image,
c'est ça.
Dès qu'on n'a pas conscience, forcément on est meilleur.
On est bon.
Ben oui, forcément, ouais. La conscience peut être un frein à la vérité.
On ne surjoue pas.
Ouais, non, même dans l'œil, la vérité dans l'œil.
Dans tous les enfants que vous avez pu croiser, que ce soit dans les castings d'ailleurs, avant même de les prendre, vous avez remarqué déjà qu'il y avait des espèces de bêtes de scène qui étaient formatées et qui commençaient à jouer à l'acteur.
Bah oui, un peu, il y a ça. Alors ça dépend des âges.
Avant, et ça dépend des parents.
Dire, avant 6-7 ans.
Mélanie, tu as raison, ça dépend des parents.
Ça dépend des parents quelquefois qui déforment.
Le regard des parents,
ouais. Avant 6-7 ans, en général, ils n'ont pas encore conscience. Entre 7 et 11-12 ans, ça peut devenir problématique. Et ça dépend aussi les filles ou les garçons. Les filles, c'est souvent plus vite formaté. Elles ont plus vite conscience de l'image que les petits garçons.
À propos d'être conscient de l'image, vous savez que cette émission est filmée, mais les Dutheil venaient de faire un crime ici. Vous venez de sortir de votre sac.
Elle savait pas.
Une bouteille en plastique. Or, France Inter à zéro plastique. Donc il y a des gobelets, il y a des carafes, et donc à l'image on voit une bouteille en plastique. Or on n'arrête pas de dire qu'il n'y a plus de plastique.
Mais qui m'a donné cette bouteille?
Quelle actrice!
Bravo hein. Ça toute nue, ça aurait été un carton. Ça. Oh, mince.
La grand-mère de Mélanie Dutheil était très bio. Elle était même l'une des premières à quoi faire.
Supprimer le plastique.
Non.
De la permaculture.
Non.
Végétarienne.
Non. J'aime bien l'enchaînement de la question, parce qu'avec l'histoire de bouteilles en plastique, c'est formidable.
Le recyclage.
Non.
C'est lié faire ses propres vêtements.
C'est lié
au
produit ou au corps?
C'est lié au produit.
Pas de pesticides, pas de traitement, pas de...
Donc ça s'appelle comment?
Sans OGM.
Bio?
Oui. Donc elle était très bio, elle était la première à faire quoi?
Son potager?
Plus.
Recyclage.
Plus.
Décyclage.
Plus.
À boycotter le...
Non.
Ouvrir un magasin bio.
Exactement.
Bio.
Un magasin bio.
Mais alors ça, c'est pas vraiment vrai.
Ah, c'est faux. Dommage. Ouais. Dommage, c'était joli comme histoire.
Oui, c'est joli. Non, mais elle était très branchée bio. Elle était très en avance.
Végétarienne.
Végétarienne, végétalienne même.
D'accord.
Et ce qui a beaucoup fait souffrir ma mère.
Elle avait un magasin bio dans les années 60?
Non, en fait, elle était prof de yoga. Mais elle avait une vraie conscience bio,
comment la presse transforme ça avec, elle a créé un magasin bio. Elle a jamais eu de magasin bio.
Non.
Ok, on a tué une légende urbaine.
Ça nous donne un état de la presse.
Mais en tout cas, non, mais cette conscience-là, vous savez d'où elle venait? C'était de son éducation?
De son éducation et puis d'une conscience aussi, en fait, que déjà, ça n'allait pas très bien sur la planète, quoi.
Et visiblement, elle ne l'a pas transmise à sa petite fille.
Si, non, mais quand on est enfant, il faut qu'on mange. Enfin, il me semble que c'est important aussi de manger de tout. De tout.
Bah, steak tous les jours, quoi.
Non, mais bio ne veut pas dire végétarien, encore une fois.
Là, non, mais vous me questionnez sur le végétarien.
Je questionnais sur le bio.
Ah, là, ça y est, ça fight.
Tu penses que c'est une émission de divertissement, Raté.
Clotaire, le fils de Jean-Paul Rouve, est déjà bien plus que Jean-Paul. C'est quoi?
Grand.
Non.
Éveillé?
Non.
Éveillé. Je suis vraiment désolé, genre, de ce genre.
Entre l'invité idiot et l'autre exibo, je sais pas, ça.
Intelligent? Tu ne dois pas jouer. Tu ne dois pas jouer.
Non, pardon.
Je sais même pas.
Nageur.
Meilleur aux
échecs. Plus écolo.
Exactement.
Ouais, j'ai lu ça.
Ah, bah oui.
Oui.
Bah, comme tous les enfants d'ailleurs.
Exact.
Je les enfants, c'est eux qui nous donnent des leçons d'écologie. Hein. C'est bien. Ils ont ça en eux vraiment, ce qu'on n'avait pas nous gamins. Il fait attention à tout, la lumière.
Il vous reprend sur les gestes quotidiens, oui.
Oui, la lumière, par exemple, et tout. Il fait attention, le frigo. Il éteint. On n'a plus besoin de leur dire, c'est naturel.
Il éteint la lumière du frigo quand vous l'enfermez dedans.
Il vérifie si elle est
éteinte. C'est vrai qu'il a l'air réveillé.
C'est la mission d'une vie.
Il arrête l'eau quand il se lave les dents. J'ai pas besoin de lui dire tout ça. Et c'est des gestes acquis pour les enfants. C'est bien.
Vous, le film d'ailleurs, Donne-moi des ailes, vous le voyez comme un film avec un fort message écologique?
Évidemment. Un message de vie. Oui, l'écologie fait partie de la vie, mais pas un message
culpabilisant.
Oui, voilà, exactement, ouais, culpabilisant. Pas du tout, parce que Nicolas est pas comme ça. Nicolas, il dit pas, faut pas faire ça. Il dit, faites ça, c'est bien. Mais il est pas à dire, faites pas attention vos déchets, attention à tout ça. Mais le tournage était très écolo, par exemple. Il était comme chez vous. Le tournage, il n'y avait pas de... Il n'y avait rien en plastique.
Mélanie Douté n'est pas venue sur le tournage, alors.
Il n'y avait rien. C'était Françoise de service. Tout était... donc, on les recevait par ordinateur, mais ce n'était pas imprimé.
Ouais.
Il n'y avait pas de...
On
avait chacun notre tasse avec notre nom pour l'eau. On triait les déchets, tout. Enfin, il fait attention. C'est bien.
Ouais. Ouais, c'est bien. Ça commence comme ça, en tout cas. Adolescente, Mélanie Douté rêvait d'être quoi?
Danseuse.
Actrice.
Alors, chanteuse, oui, mais quel genre?
Lyrique.
Non.
De disco.
De cabaret.
Moi je dis rien.
Rappeuse.
Chanteuse nue, mais de quel genre de musique?
De chansons françaises, de variété, de country, de
rock.
Pas de... Ouais. Daniel Morin, vous rêviez de faire partie d'un groupe de rock?
Oui, c'est vrai. Oui, ça m'aurait amusé, oui.
Les Plastic Bottles.
Non, vous étiez plutôt quoi, un peu Pink Floyd, un peu...
Oui, pas trop rock, mais plus...
Psychédélique.
Oui, un petit peu, ouais, très 70, ouais. Mais en fait, ma voix m'a empêchée.
Alors, j'avais pas le talent. Vous êtes allé à un casting, c'est ça? D'un groupe de rock?
Non, mais bon, comme tout un peu ado vieillissant, ouais, t'as un groupe, ouais, j'adorais chanter, j'ai fait des chœurs. Et je pense que ça a duré une semaine.
C'était choriste.
Oui, voilà.
D'accord.
Mais comme beaucoup de choristes, avec la volonté de passer devant et de passer maître de la scène, et puis en fait, peut-être pas trop.
Est-ce que lorsque vous étiez enfant, vous aviez des posters de chanteurs ou d'acteurs au mur de votre chambre?
J'ai jamais été fan.
De qui que ce soit?
Non.
D'accord.
Non.
Et alors, l'envie de se mettre à chanter n'est même pas venue de disques que vous écoutiez ou de ce que vous regardiez à la télé ou des concerts en disant, tiens, mais moi aussi, j'aimerais faire ce que il ou elle fait. Non.
Non, j'ai toujours admiré.
On s'identifie quand on est ado.
Oui, c'est ça. Mais plusieurs personnes. J'ai des souvenirs d'avoir vu des concerts de Marvin Gaye en vidéo. Je me disais, oh là là,
mais
cette bête de scène, quoi. Oui, oui, bon, c'est vrai.
C'est ça.
Mais et voilà.
Actrice vieillissante, mais super bien conservée. J'étais à des concerts de Louis Armstrong. Je l'ai vu démarrer. C'était formidable.
À Saint-Germain, dans les caves.
Non, et puis c'est vrai qu'il y a l'interprétation. Enfin, ça regroupe beaucoup de choses, quoi, la scène. Il y avait donc ce plaisir d'être sur scène, mais l'interprétation, le jeu, le rythme, je pense que c'est une façon de me rapprocher de la scène
vous
aussi.
Vous jouez d'instrument?
J'ai fait du piano.
D'accord, donc ça aide, ouais, c'est ça.
Oui,
ça aide.
C'est vrai qu'on danse moins quand on joue du piano.
Jean,
mes petits pas.
Jay, oui, c'est vrai. Jean-Paul Rouve a longtemps eu dans sa chambre justement un poster, mais de qui?
De moi.
Non. Nu.
Homme, femme?
Non, homme.
Toi?
Un humoriste?
Non. Un joueur
un
de foot?
Acteur.
Et d'ailleurs, je me demande s'il n'était pas un peu nu d'ailleurs. Cet acteur.
Hip-hop?
Non.
Ah, acteur.
Un acteur?
Un acteur un peu nu.
Un acteur Carrie un peu nu. À moustache?
Non.
Johnny Westmuller.
Non, mais tais-toi, enfin.
Alors, c'est pas de finesse.
T'as dit quoi, pardon?
Rocco?
Johnny Westmuller?
Non. Un poster, c'est malsain ce que vous faites.
Français ou américain?
Surtout que ça.
Un poster de
Rocco. J'utilise du papier. Hein.
T'imagines pour un garçon avoir un poster de Rocco Siffredi nu dans sa chambre?
Bah quoi?
C'est castratrice.
C'était pas la Spalès,
attends? Non.
Français ou américain?
Je crois qu'il a été naturalisé américain, ouais. Ça y est, t'as la même
image. Cœur de glace.
Quoi. Il était torse nu ou pas?
Schwarzenegger? Oui, oui, bien
ouais.
sûr.
Schwarzenegger,
oui.
Ouais, c'est
ah
bien.
Non, c'est dans l'idée en tout cas.
C'est dans l'idée, ouais.
Jean JCVD?
Non, Jean-Claude Van Damme? Non.
Schwarzis, là,
Avant.
Avant Schwarzenegger?
Ouais, avant.
Les hommes forts naturalisés français. Qu'est-ce que
Steven
c'est?
Steven
Seagal? Ah, mais c'est Tarzan, comment il s'appelle?
Non. Johnny Westmuller? Non.
Non.
Superman?
Non.
Comment il s'appelait?
Christopher Reeves?
Non. Non, on le voit
quand
souvent
torse nu.
Même dans ses films, il est torse nu.
On le voit souvent torse
ouais.
nu.
Ouais, ouais.
Marlon Brando.
Non.
On aide ou pas? On donne un indice
non.
ou pas?
Il y a eu une célèbre scène tournée au Colisée.
Ben Hur.
Non.
Bruce Lee.
Oui.
Ah, Bruce Lee.
Contre
ah
ouais. Chuck Norris. C'est
Bruce
ça,
Lee, ouais.
Bruce
ouais,
Lee, c'est naturalisé français?
Non, naturalisé américain, on a dit.
Ça n'a rien à voir.
Oh, très joli, Sophie.
Wow.
C'est vrai que c'est une note, c'est une note très particulière.
Ça n'a rien à voir, c'est pas le même pays, en fait.
Ils sont voisins, mais c'est pas le même pays.
Voilà. Eh oui.
Bruce Lee, oui, j'ai aimé les films de combat.
Ah, ouais, j'adore les films de Bruce Lee. Je trouve que c'est extraordinaire.
L'Exploreur du Dragon et tout ça.
Ah, c'est dément, faut les revoir. Même aujourd'hui, la réalisation est formidable et tous les combats, rien n'est truqué. C'est un génie, Bruce Lee.
Est-ce que vous êtes passé, fan de Bruce Lee à fan de Jackie Chan?
Non.
Ah.
Non, c'est vraiment
c'est
bon. Non,
chose.
Vraiment, Bruce Lee, c'est très, très étonnant. Puis sa vie, tout est très étonnant chez Bruce Lee. Bah, on voit dans le dernier Tarantino, il fait un hommage à Bruce Lee qui est très réussi.
Que sa fille
mal pris.
Oui. A mal interprété.
Il est pris pour un idiot un peu.
Ouais. Exactement. Vous savez qu'il aurait dû être. Comment s'appelait ce feuilleton là que David Carradine a joué, Petit Scarabée?
Oui. Kill Bill?
Non.
Karate Kid.
Kung Fu.
Panda,
Kung Fu.
Oui, c'était ça.
Non, Kung Fu, c'est pas Kung Fu.
Mais si,
Kung
Fu. Si, c'est ça, ouais.
T'es sûr?
Avec David Carradine.
Et le petit Scarabée.
Petit Scarabée,
oui. C'est Bruce Lee qui devait le faire.
Ah ouais
initialement. Et ça aurait été autre chose parce que les scènes de combat auraient été.
Mais revoyez.
Proche de la réalité parce que c'était un vrai compétiteur, Bruce Lee. C'était pas que.
Oui, c'est un génie. De voir aujourd'hui les scènes de combat, regarder les films, il n'y a pas de fil, il n'y a rien, quoi. Il fait tout. C'est très très impressionnant. Et puis il joue bien, c'est un bon acteur.
Alors parlons donc de ce film qui sortira.
Non, parlons de Bruce Lee.
Ce mercredi.
Ouais.
Donne-moi des ailes. Avec un Frédéric Sorel. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le Fred dans
la qu'est-ce qu'il est bien.
Il est tellement drôle, tellement juste dans sa folie. Tout part de lui, hein, parce que c'est lui qui apporte des œufs d'oie qu'il a un tout petit peu mélangé. Et
ah ouais, à quoi
ouais. Tout ça, il découvre. Il découvre la vie, mais voilà, en scientifique. Qui aide votre personnage, qui s'appelle d'ailleurs Christian, donc j'imagine que c'est une référence à ce véritable scientifique, voilà. Scientifique utopiste, et tellement scientifique, tellement utopiste, qu'il a la tête ailleurs, la tête dans les étoiles, et qu'il en oublie un peu sa vie privée.
Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Ça aussi, ça m'a touché, ça, dans le film, parce que quand on connaît Nicolas, il y a une part de Nicolas, je pense aussi. Quand on a des passions comme ça, on peut en oublier un peu sa vie. Et je pense aussi ça résonne aussi en moi avec nos métiers à nous, qui sont tellement prenants, où il faut faire attention. On peut vite perdre papier, mais on peut en oublier sa famille.
Ou passer à côté de la vie.
Passer
déjà,
à côté
certaines
de ça.
Choses de la vie.
Ouais, faut faire attention à ça. Faut être très vigilant avec ça, j'ai l'impression. Et lui, il y a ça. Et en effet, il passe à côté de sa famille.
Parce que c'est ça, Mélanie, on parle beaucoup de cette notion de scientifique qui veut rééduquer, sauver les oies sauvages en leur montrant un nouveau chemin. Et il y a aussi toute la toile de fond familiale. Vous étiez en couple, vous avez un adolescent, vous reconstruisez votre couple avec l'excellent Grégory Baquet, qui joue votre nouveau mec, qui joue sublimement bien le mec, un tout petit peu quand même largué par tout ce qui se passe autour de lui.
Bah, il se fait très vite dépasser. c'est ça. Oui, très très vite.
Il le tient bien, en tout cas.
Il le tient bien. Mais c'est vrai que, voilà, je pense que sa passion nous a éloignés, et puis finalement, c'est elle qui va nous rapprocher aussi. Donc, parce qu'il le vit avec tellement de sincérité, et puis cette utopie, c'est une poésie. Et aujourd'hui, c'est rare, quoi, la poésie. Et du coup, la façon dont il va la transmettre à son fils, parce que c'est quand même un film sur la transmission.
Clairement, oui.
Voilà, ça va me bouleverser, et puis parce que ça va réveiller en nous l'amour qu'on avait, et voilà, ce qui m'a plu. Il y a certainement 15 ans, je vais le retrouver.
Et ce qui vous a fait aussi le quitter sans
exactement.
Doute aussi, quoi. C'est
ouais.
Vrai que c'est l'excès du personnage dans les deux
c'est
sens.
Trop, ouais.
On quitte toujours
ouais.
Quelqu'un
pour les raisons pour lesquelles on est tombé amoureux, sans
exactement.
Doute.
Ouais.
Ah ça.
La réunion d'anciens combattants.
Tu
le moment,
verras, Marina.
C'est le moment de parler.
T'auras l'âge de Leïla.
Comment, Mélanie, comment s'est déroulé le tournage d'abord dans quel lieu, Camargue?
Alors on a beaucoup voyagé. On a commencé en Camargue dans un décor absolument incroyable, c'était magnifique.
Ouais, c'était dingue.
C'est vrai qu'on avait des horaires, quand on regardait la feuille de service, on avait des horaires, enfin qui n'étaient donc pas sur papier, hein, sur ordinateur, par mail, qui étaient très très tôt. On disait, oh là là, on vient nous chercher à 4h du matin. Et on arrivait dans un endroit avec une lumière absolument mais extraordinaire. À chaque endroit où on a tourné, on avait c'était des paysages qui étaient absolument magnifiques et qui nous portaient. C'était un vrai tournage. Le personnage principal, c'était la nature, quoi, et les oies. Et donc on a tourné en Haute-France, on a fini en Laponie, dans un endroit où il n'y avait pas de nuit. Donc ça, c'est assez curieux. Il n'y a pas de nuit du tout. On avait une lumière entre
jamais.
Chien et loup.
Ouais, ouais. Ouais.
C'est un peu curieux pour l'organisme. On a du mal à s'y faire.
Et cette aventure vécue par Nicolas Vanier et que vous avez vous aussi vécue, vous êtes vraiment à bord de oui. L'ULM. Vous voyagez vraiment avec les oies sauvages.
Ah ouais.
Comment ça
oui.
S'est passé, Jean-Paul?
Alors,
dites la vérité.
Oui, bien sûr. Non,
il y a un peu de trucage quand même.
Non. Les oies, quand elles suivent l'ULM, c'est pas truqué évidemment, mais ça c'est Christian Moulet qui pilote
d'abord.
L'ULM.
D'accord.
Parce qu'il y a que lui qui sait faire ça.
Donc le plan large, on va dire. Le plan
oui,
de
oui,
loin,
bien sûr.
Le plan de
ça
loin.
C'est obligé, c'est okay. Obligé, c'est lui. Et quand il y a les oies qui volent à côté de l'ULM, c'est Christian aussi qui pilote, parce qu'il y a c'est ses oies, donc elles le suivent lui, il a l'habitude, lui sait quand il peut les faire décoller. Des fois on pouvait pas tourner, il dit bah là elles vont pas voler à cause du vent, c'est très compliqué. Et il y avait un ULM où il y avait quelquefois un ULM à deux places où il y avait Christian et le cadreur qui était là.
D'accord.
Et qui filmait en direct
oh,
les oies qui
génial.
Étaient à 2 cm.
Ah non, il y a des plans incroyables.
Qu'on peut caresser
les
en volant
les oies.
Ouais, c'est incroyable.
En vol, enfin, c'est complètement fou.
Il peut même en prendre une éventuellement, c'est
bien
ça
sûr.
Comme dans le film, quoi.
En fait, pourquoi c'est un ULM? Parce que ça vole à la même vitesse que les oies.
J'ai du mal à comprendre comment on
ouais.
Peut tendre les bras
ouais.
À bord d'un ULM, saisir une oie qui est en train de voler.
Ouais.
Et la
Christian, il le fait, ouais.
Et la prendre
il la prend,
sur
ouais.
Soi pour qu'elle se repose entre guillemets du vol.
Ouais, ouais, il la prend.
Ça, c'est une scène
non,
que,
c'est
qui m'a bluffé.
C'est complètement dingue.
Ça.
C'est complètement dingue. Ouais, oui. Et parce que ça vole à la même vitesse en plus, l'ULM et les oies. 50 km/h, 40, 50 à peu près. Et voilà, et tout ça est très doux, très
planant.
Tranquille, planant.
Ouais. Enfin, c'est un rêve de gosse de voler oui. En ULM avec des oies.
En tout cas,
on a vraiment la sensation de
c'est
voler, quoi.
Qu'on peut pas, en fait, dans notre tête, on l'a pas. Enfin, comment dire, on peut même pas l'imaginer ça dans notre tête, soit possible de le faire un jour.
Ah, mais je vous assure, de
vous l'avez expérimenté, j'imagine, sur le tournage.
Ouais. Ah ouais.
Même quand on le voit, on se dit c'est pas possible.
Voilà. Donc, pour ça, tout le monde nous demande, mais c'est truqué, comment vous avez fait, comment c'est possible?
Eh ben c'est possible.
Eh ben c'est possible.
En tout cas, ce qui est fort, et c'est la réussite du film, c'est qu'on se sent pris dans l'histoire au point où nous aussi on est très proche de ces animaux et on a envie de les sauver.
Ouais, et puis c'est un film qui nous fait dire aussi, enfin moi qui m'a donné cette sensation, c'est qu'on a besoin de cette poésie, on a besoin de cette utopie, on a besoin de se laisser prendre.
Oh oui, ça fait du bien un peu.
Mais c'est un signe en creux de ce qu'on vit, c'est-à-dire que si on a autant besoin d'un film comme ça en ce moment, c'est que c'est quand même dur dans la réalité et en fait au départ je me suis dit bon. Un film sur les oiseaux avec un enfant et tout. Sur le papier, a priori, je me suis dit, je suis peut-être pas la meilleure cliente. Et en fait, je me suis laissée complètement emporter par l'histoire. Et puis, je trouve que votre personnage, par la poésie qu'il amène, par ce côté, je rêve de quelque chose. Et finalement, est-ce que en rêver, c'est pas suffisant pour
oui.
Que ce soit réalisable?
Exactement.
Ça fait un bien fou, vraiment.
Ça redonne envie de bouffer du foie gras et ça. Sauvons les producteurs.
Ça me permet de rappeler que en 30 ans, plus de 420 millions d'oiseaux ont disparu du ciel européen. On parle même pas de la planète, on parle du ciel européen. 420 millions d'oiseaux. On en reparlera tout à l'heure avec Alain Bougrain-Dubourg qui est notre invité. Mais d'abord, vous n'avez plus rien à faire, Mélanie, Jean-Paul. Les questions et les réponses sont données par Tom Villa.
Alors aujourd'hui, Nagui, on reçoit Jean-Paul Rouve et Mélanie Doutet pour le film Donne-moi des ailes. Et...
Je suis tellement content d'être là.
Ah bah ça fait plaisir, Jean-Paul, moi aussi je suis content de vous avoir pour ma chronique. Et...
Je sens que ça va être super drôle.
Oh bah écoutez, je vais tout faire pour. Hein.
Tout est écrit, tout est parfait.
Arrêtez Jean-Paul, vraiment ça me gêne, c'est trop.
Quelle chance que j'ai de l'avoir rencontré dans ma vie ce mec-là.
Bah, vraiment merci, ça devient presque gênant, mais c'est vrai que c'est... Bah, pour arriver à une bonne chronique, il faut beaucoup bosser.
Et... Pierre a raison.
Ah non, par contre moi c'est pas Pierre, c'est Tom. Tom Villa, voilà.
T'es... Là, t'es 2 ans avec Bernard Ménez.
Ah non, pas du tout, on venait avec Daniel Morin. Je vous laisse y réfléchir. Mélanie Doutet, tout va bien ?
J'ai un peu là, les cheveux qui sont comme de la laine de chèvre.
Ah ouais ? D'accord. Non, alors je vous rassure, on dirait pas. Hein. Vraiment, c'est... on va revenir au film peut-être. Hein. Donne-moi des ailes, qui est vraiment super. Mélanie, quel plaisir de jouer avec cet acteur, j'imagine.
J'avais très envie de travailler avec Michel.
Non, c'est Jean-Paul. Vous avez du mal avec les prénoms en fait. Hein.
J'ai pas vu la pièce.
Non, c'est un film.
On voulait boire quelque chose, on a fait un feu de bois.
2 secondes, Jean-Paul, je discute avec Mélanie.
Un bon feu de bois, une pipe.
Oui, mais on avait compris, Jean-Paul. 2 secondes. Moi, je vous avoue que j'aime beaucoup Mélanie Doutet. Elle joue, ce qu'il y a de bien, c'est que, voilà, elle joue pas à l'actrice dont la vie vous avez des plaisirs simples, j'imagine.
Monter sur des chameaux, aller chercher du caca.
Ah oui, c'est très simple, c'est très simple. Voilà, Jean-Paul, vous m'aimez et je vous aime aussi, vos films, votre capacité à improviser. D'ailleurs, si ça vous dit, je vous donne un mot et vous partez en impro. Oh,
c'est mon rêve.
Génial. Alors, on n'a qu'à dire le mot, je sais pas, café. Voilà, café, improvisé sur le mot café.
Tiens, tu veux un café ? Ouais, je veux bien. Ah, il est un peu fort ton café. Ah bon, tu trouves ? Tu veux que je t'en refasse un ? Non, non, ça va, je te remercie.
Après, l'impro, c'est pas toujours évident. Il y a des mots un peu pièges, il y a des... C'est vrai que déjà, quand on est tout seul, c'est pas toujours simple.
Hein, eh ben, moi, je vais me mettre à poil.
Non, non, Jean-Paul, qu'est-ce que vous faites ? Non, c'est gentil, qu'est-ce que vous
faites ?
Oui, oui, j'avais remarqué, vous disiez n'importe quoi. Mélanie, si vous pouvez m'aider à rattraper la situation, dites un truc, n'importe quoi. Hein,
On se met à poil.
Non, mais c'est une thématique ou quoi ? Dites autre chose, je sais pas, faites un sketch, chantez une chanson.
Supercalifragilisticexpialidocious.
Et voilà, ça au moins c'est mignon. Jean-Paul, vous avez reconnu le film ?
J'adore Sherlock Holmes.
Eh bah super, allez, bonne émission.
La bonne Nagui sur France Inter.
Très très fort. La bande originale du film également. Avec cette musique.
C'est moi qui chante.
La choriste.
Et le rock des gens.
Aux cheveux de chèvre.
Oui. Et au rire aussi.
Tous ces musiques.
Motorhead, hein.
Non, comme pas, hein.
Mais au réveil.
Non, la musique est très très plaisante. Il y a des moments où ça me faisait penser un peu à Noah, la chanteuse.
Oui,
non, ouais, non,
Roland Garros,
non,
recette. Pas la première fois qu'il dit n'importe quoi.
Saga Africa, tout ça, non, c'est vraiment bien. Non, mais la musique est présente parce que ça nous aide. Il y a aussi des moments de silence. Tout à l'heure, on disait que la difficulté pour des actrices et des acteurs était de tourner avec des enfants et des animaux, avec les oies. Alors, donc c'est elle qui décidait de on tourne pas.
Oui. En fonction de la météo. C'est un peu ça.
Bah oui, bah, c'est on ne sait pas quand ça va naître, par exemple.
Voilà, on ne sait pas quand ça va naître.
De Jean-Paul,
donc ça, c'est une vraie scène. Enfin, c'est-à-dire
oui.
Que...
Ah oui. Tourner une scène donc dans la cuisine, et là, il y a Muriel Beck, c'est elle qui s'occupait des oies,
Muriel Beck.
Oui, oui, j'allais.
Oui, c'est vrai. Des œufs. Muriel Beck.
S'occupait des œufs.
Et des œufs. Donc les œufs étaient à côté, dans une pièce à côté, dans la couveuse, et elle est venue nous dire, ben ça y est, je vois, ça bouge, ça va naître. Donc on a tout changé le plan de travail, et tu vois, j'ai pris un œuf dans les mains, on a mis les caméras. Et on a fait la scène. Et l'œuf a éclos dans mes mains. Et donc elle était off, elle. Et moi, elle me dit, vas-y, parce qu'on n'ose rien faire. Elle dit, mais tu peux l'aider à ouvrir la coquille. Alors, il y avait le bec qui sortait. Et ce qu'on voit dans le film, c'est du direct.
Et donc, vous êtes sa maman.
Mais oui.
C'est fou, hein.
Pour de vrai, aujourd'hui.
Bah, en fait, c'est. Non, en fait, on a une tenue. Donc, dans le film, on le voit dans la bande-annonce. Oui. On a ce qu'on appelle une robe de bure. Mm. Donc, c'est un vêtement caractéristique dont
et
tout
joli.
Monde. Et c'est joli. Et tout le monde avait ça sur le tournage. Muriel a ça. Nous, on avait ça. Pour que ensuite, c'est cette image-là, comme ça, que l'oie a.
D'accord.
Et comme ça, Muriel les entraînait. Et puis ensuite, nous, on prenait le relais pour.
Il paraît que vous avez fait le relais aussi.
Et je prenais le relais aussi. Bon, ça. C'était, bon, un autre
off.
Moment.
Off, ouais, off,
bien
off.
Sûr.
Il nous a appelé ce matin. Il est ravi.
Il est ravi, hein.
Il est content.
Voici Marina Romagne.
Merci. Bonjour, les amis. Samedi se déroulait dans plusieurs villes, et notamment Paris.
où je me trouvais la Nuit Blanche, qui est donc un événement dans lequel on avait accès gratuitement à des dizaines de musées, d'œuvres éphémères, de performances, de visites, bref, un programme culturel extraordinaire. Et donc, logiquement, moi, samedi soir, je suis restée chez moi comme une immense patate à regarder une série, et c'était merveilleux, mais je m'en suis voulu. Et pourtant, on était tellement bien sous la couette, mais c'était mal, et c'est peut-être ça qui était génial. Je suis tiraillement France Inter, je sais pas comment vous le dire. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont un peu le même sentiment que moi. Moi, j'ai un rapport un peu culpabilisé, comme ça, de pseudo-bobo gauchiste à la culture. J'ai une notion de mission, tu vois. Je me dis, faux, c'est bien, j'ai pas envie, mais c'est nécessaire. Et depuis toujours, il y a une voix comme ça dans ma tête qui me dit des trucs genre, il faut aller voir de l'opéra en tchèque, il faut aller voir de la danse contemporaine à Bobigny, il faut aller voir Adèle Exarchopoulos qui récite les accords d'Oslo à Chaillot. Et moi, je suis là, mais pourquoi? Et la voix dans ma tête, elle est là, parce que sinon, les nazis. Et c'est vrai. On les oublie souvent, les nazis. Du coup, merci à tous les gens qui sont allés à la Nuit Blanche. Merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Merci à tous les gens qui se cultivent d'être là pour repousser le 4e Reich. Mais en vrai, je crois que c'est un mensonge. La culture comme rempart à la barbarie. Parce que tu crois vraiment qu'à chaque fois que tu vas voir une troupe de mimes qui refait l'Odyssée en danse contact dans un frac, quelque part, il y a un nazi qui se dit « Ouais, bon, d'accord, peut-être qu'il contrôle pas tous les médias. » C'est difficile d'être convaincu de la mission civilisatrice de la culture parce que souvent, dans les endroits où on se cultive, on est déjà tous pas mal d'accord entre nous, tu vois. En vrai, si on voulait réellement se cultiver, si on voulait vraiment aller voir des spectacles nécessaires, courageux, qui dérangent, on devrait jamais aller voir les trucs qui nous ressemblent. Moi, je devrais passer mes week-ends dans des compétitions de quad ou de monster truck. Je devrais aller dans des stages de masculinité. Vous voyez ce que c'est, ces trucs? Ouais. Trucs où il y a des mecs qui crient le nom de leur ex-femme dans les bois en poussant des bagnoles comme ça. Qui coupent des rondins pour oublier leur calvitie, c'est hyper touchant.
C'est quoi ce truc?
C'est des stages où des mecs qui ont perdu leur virilité vont la retrouver.
C'est très très bien, Nagui.
Un peu fasciste.
Tu l'as fait.
Et moi, là, si j'allais voir un truc comme ça, je rencontrerais des réalités qui changent ma vision du monde. Là, je m'ouvrirais, je me cultiverais. Et dans l'autre sens, c'est une bonne idée que je sois pas allée à la Nuit Blanche, parce que moi, je sers à rien là-bas. En vrai, c'est les types qui commettent des crimes homophobes, islamophobes, antisémites. Eux, on devrait pas les mettre en prison. Eux, on devrait directement les abonner à l'Odéon ou à la Colline. C'est eux qu'on devrait aller forcer à voir des spectacles nécessaires. On devrait les forcer à aller dîner avec la troupe après. Et là, il y aurait des vraies rencontres, tu vois. Là, il y aurait des nazis qui repentis, qui se mettraient au théâtre, tu vois. Après, ils bosseraient sur leur propre seul en scène, qu'on devrait aller voir. Parce que s'il y avait personne dans leur salle, ils seraient tristes.
Ouais.
S'ils étaient tristes, ils redeviendraient nazis.
Et ouais.
Donc c'est vrai, au final, que la culture, c'est un rempart à la barbarie. Mais peut-être qu'au fond, les barbares, c'est les artistes. Peut-être qu'on a besoin de la culture pour les garder à un endroit où on peut les surveiller. Enfin, disons barbares, pas nazis. Mais moi, je suis bien placée pour en parler. Les gens qui montent sur scène, on est un peu... Ouais. Même les très talentueux, les très connus, c'est évident que... Ouais. Fabrice Luchini, tu le sais, s'il montait pas sur scène, tu le sais Fabrice, il ferait des trucs bizarres. Tu sauterais, tu serais dans le bus en train de bouquiner, il te sauterait dessus, il te dirait « Peggy, il faut lire Peggy, le mec est extraordinaire !» Je dis « Mais lâchez-moi, vous me postionnez dessus en fait. !» J'ai bien fait de rester chez moi samedi soir, j'ai regardé une série qui s'appelle « The Politician » de Ryan Murphy. Ryan Murphy, pour les gens qui ne voient pas, c'est un créateur de séries américaines qui a une esthétique assez particulière. Ce qu'il adore, c'est prendre des histoires bien glauques et en faire des espèces d'opéra tragicomique rococo comme ça. C'est kitsch, c'est triste, c'est drôle, c'est d'assez mauvais goût et à la fois c'est assez génial. C'est un peu comme si à l'époque Pascal Sevran, au lieu de faire la chance aux chansons, chaque semaine, il avait décidé d'adapter en comédie musicale les histoires les plus gores du nouveau détective. Mais dans le même décor, tu vois, avec les danseurs dans le fond qui font semblant de prendre des vêches. Je suis la seule personne qui ait vu la chance aux chansons.
Non, pas du tout, moi je connais bien.
Non, mais on veut te laisser seule dans cet embarras.
Pardon. Et donc j'ai regardé ça, c'était super, j'ai pas l'impression d'en être sortie plus barbare, mais je culpabilisais un peu quand même. Jusqu'à ce que dimanche, je poste des stories sur Instagram. Chance aux chansons, Instagram, tout. Ils sont bilingues, tout le monde est bilingue, c'est formidable. Et jusqu'à ce que je poste des stories sur Instagram et il y a un jeune homme qui me suit, qui m'envoie le message le plus condescendant sous couvert d'être poli de l'histoire, où il étalait sa pseudo-science pour me corriger sur une faute de syntaxe qui en réalité n'existait pas. Donc il me corrige, c'est pas vrai, donc je lui fais remarquer. Il s'est pas excusé, il a persévéré dans son arrogance et tout. Et ça m'a fait prendre conscience que je sais pas si la culture sauve tout. En tout cas, c'est une certitude, elle ne remplace pas l'élégance. Voilà, merci.
Bravo!
Et je retrouverai ma voix la semaine prochaine, je pense.
On te retrouve quand même au Théâtre de l'Œuvre.
Oui, absolument, les mardis et les mercredis. Et venez pour tous ensemble repousser les nazis.
Trop bien, ouais, absolument. Repoussons les nazis en allant voir Marina Rollman. Nous allons évoquer la musique que vous écoutiez, Mélanie Douté et Jean-Paul Rouve, notamment en 99. Mélanie, vous écoutiez... Express yourself. Express yourself. Donc après Marvin Gaye et Charles White, vous êtes très musique noire américaine, comme ça, très funk.
Ouais, les belles voix, quoi, bien pleines et tout. Ouais, j'adore. Et
puis cette musique-là vous renvoie quelles images?
Ben, en fait, c'est de l'entre-conservatoire, donc voilà, épanouis-toi, découvre-toi, rencontre-toi, sois en accord avec toi, voilà,
c'est ça. Et dire à ses parents aussi qu'on va être comédienne, quand ses propres parents le sont aussi.
Oui, bah, c'est un petit moment de « bon, allez, bon, j'y vais ». Mais qui s'est bien passé, avec certaines règles quand même à respecter. Hein. Si tu fais pas de non avant 25 ans, t'arrêteras ce métier. Enfin, y avait certaines étapes, quoi.
Ah, y a une urgence dans la réussite ou dans le fait... C'est quoi la réussite pour eux à cette époque-là? C'est de
c'était
tourner,
l'assurance
de...
que je puisse faire ce métier toute ma vie. Enfin, il n'y a aucune assurance de rien, d'ailleurs. Mais c'était, voilà, si jamais à tel âge, tu t'es pas fait de non, bah, ça voudrait dire que t'es pas faite pour ça. Si à partir de tel âge, t'as pas fait un film ou que tu...
C'est quand même super délicat. Ouais. Comment savoir que...
Mais on ne sait pas, moi-même aujourd'hui, enfin on ne sait pas, peut-être il y a des carrières, on est entouré de gens qui ont commencé leur carrière à 40 ans, ou d'autres qui la commencent jeune et puis qui s'arrêtent après, enfin il n'y a aucune garantie.
Des gens qui commencent à 40 ans, c'est vrai, il y a des gens qui commencent à 40 ans, ça me semble...
Mais si, qui ont toujours travailloté et puis tout d'un coup, qui ont une rencontre avec un personnage et puis ils se mettent à bosser plus.
Et Funès, il commence, il a plus de 40 ans, hein. C'est fou. Hein.
Et puis, à l'inverse, ceux qui ont une carrière fulgurante à 20-25 ans et après...
D'ailleurs, on n'a pas de nom à citer.
Ouais, c'est vrai.
Jean-Paul Roux, vous écoutiez à ce moment-là Francis
c'est
Cabrel.
Le silence qui se remarque le plus.
Grosse patate.
Les voleurs, c'est un chef-d'œuvre. Tous descendus. Hors saison de Cabrel. Ouais. C'est un chef-d'œuvre d'écriture, de tout. C'est du cinéma. Moi, je vois un film quand j'écoute cette chanson. Je vois les images, je vois tout. C'est
ça, pardon, vous pouvez le dire avec toutes les chansons de Cabrel. Elles sont tellement bien écrites que ça...
Oui, mais alors celle-là, particulièrement. Ouais, celle-là. Je vois des plages, je vois des, comme ça, des cités balnéaires fermées avec le vent dans les rues, le sable qui vole, enfin, l'odeur du sable. J'ai tout dans cette chanson.
Et pendant que Mélanie est au conservatoire, on vous retrouve, Jean-Paul, à la télévision dans Nulle part ailleurs.
99-2001,
ouais, c'est ça. Avec les Robins.
Avec les Robins des Bois, on avait fait 2 ans à Comédie, puis ensuite De Greffe nous demande de venir à Canal, et on vient avec grand plaisir à Canal. On fait une année d'ailleurs formidable avec Nagui.
C'est régalé, oui.
Ah ouais, franchement, moi, c'est des super. C'est là où on se rencontre avec Nagui, c'est tout ça. C'est des très très bons souvenirs pour moi, ça.
Ouais, et c'est un peu aussi pour nous téléspectateurs un marqueur fort aussi. Il y a eu les Nuls, il y a eu les Robins des Bois. Enfin, il y a vraiment des écoles qui restent en tête. J'imagine qu'on vous en parle tout le temps.
Tout le temps. Et merci Alain, merci De Greffe, quoi. C'est lui, puis Jamel, bien sûr, Omar et Fred, il y en a plein. Mais c'est lui qui nous met à l'antenne. Et au début, c'est quand même, on n'est pas au top, hein. Mais il nous laisse,
il faut pas oublier la liberté.
La liberté.
Le temps.
On fait quand même des sketchs, on fait des trucs dingues avec, je sais pas si tu te souviens, là je te tutoie parce que là on est dans un rapport, on a fait quand même une émission où c'était David Bowie l'invité, on a fait un sketch avec David Bowie, avec Nagui qui va dans les coulisses avant et qui dit bah voilà on a un sketch, est-ce que tu veux bien le faire? Et lui très gentiment, et je fais un sketch où je finis sur les genoux de David Bowie et je l'embrasse sur la bouche. Et ensuite, on va le voir dans la loge, tu te souviens ou pas? Et il dit, je joue, est-ce que vous voulez venir me voir? Il faisait un petit concert, est-ce que vous venez me voir? On est allé voir David Bowie, un petit concert. C'est quand même dingue, la vie qu'on a, les choses qu'on a vécues.
Non, ce qu'il faut se rendre compte, c'est la chance que l'on a eue.
La chance.
C'était magique.
Fou.
Totalement magique.
Et quel souvenir vous avez de ça, Mélanie, vous, des années, justement, Robin des Bois à la télé? Est-ce que vous regardiez les sketchs?
Justement, cet humour, et puis vous venez de le dire, mais cette liberté, je sais pas si aujourd'hui on pourrait faire encore ce genre d'émission.
Vous auriez pu faire partie d'une troupe, vous aussi?
J'ai pas le talent qu'avaient les Robins et tout ça. Le truc d'improvisation et tout ça.
Oh non, t'es pas un impro, tout était écrit. Hein.
Ouais, tout était écrit, la
ce qu'il y a, c'est que c'était écrit comme c'était mal joué, on croyait que c'était improvisé.
Putain, je dis des gentillesses sur lui. Ouais, regarde,
c'est
chaud. Hein.
C'est une enflure.
Tu sais, son problème, c'est qu'il a un mauvais fond.
On le sait, hein.
C'est ça?
C'est exactement ça.
En 2003, Mélanie, vous écoutiez. John Oates, I Can Go For That, entre autres, c'était l'un de leurs succès aussi. Et là, vous avez choisi You Make My Dreams. Cette musique était celle que vous écoutiez sur un tournage en particulier. Elle vous renvoie aussi à ces années, il y a 15 ans.
Ouais, bah, j'ai continué à l'écouter. Je suis très très moderne dans mes choix musicaux.
Non, mais c'est extrêmement agréable à écouter aujourd'hui.
Ah oui, c'est joyeux. Ouais. C'est des morceaux que j'écoute souvent. Je ne sais plus quelle année.
En 2003. C'est Chabrol.
Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ce morceau. Mm. Parce que bosser avec Chabrol, c'était un peu quand même un rêve. Et
vous faites que des vannes sur les titres, vous. Express yourself, je m'exprime.
Comme c'est pas
joue.
La première fois que je fais cette émission. J'essaye de trouver à chaque fois des petits challenges okay. sur le choix des titres. Bien. Et donc là, je me suis dit,
donc on aurait pu avoir Dreams, I'm a Reality, mais non, on a eu. Okay,
mais donc, du coup, voilà.
Vous avez tapé Dreams sur Google, vous avez dit, qu'est-ce qu'il y a comme chanson?
Ça non.
Pour une fois qu'on a un invité qui fait des efforts.
Ouais, il a fait des recherches.
Et bosser avec Chabrol, c'était génial. Et puis, j'ai rencontré Suzanne Flon, je tournais avec Magimel, avec Nathalie Baye, avec Bernard Lecoq. Non, c'était magique ce tournage.
Et c'était l'année aussi où vous avez été nommée pour le César du meilleur espoir féminin.
Ouais.
Pour Le frère du guerrier. À ce moment-là, vos parents vous considèrent que de toute façon c'est bon, vous avez pris le bon chemin, il faut attendre ça ou pas?
Oui, j'entends un peu un ouf. Bon, ça c'est fait. Mais mets de côté quand même.
Épargne.
Qu'est-ce que vous avez appris auprès de Chabrol?
Oh ben en fait c'est des rencontres d'une simplicité, c'est un petit peu comme Nicolas Vanier quoi, c'est des vraies personnalités qu'on rencontre, c'est des cinéastes.
Pas, quand on est taxiste, on peut pas être ami avec tous les réalisateurs avec lesquels on travaille.
Ah non, mais j'ai travaillé avec des ordures, mais j'en parle pas, ça sert à rien. Mais il y a des belles rencontres. Alors,
pardon,
et Nicolas Vanier en fait partie aussi.
Ça change quoi dans le jeu d'une actrice de travailler avec dans l'adversité ou de travailler avec quelqu'un que l'on aime? Est-ce que finalement de travailler avec quelqu'un que l'on n'aime pas, ça ne vous pousse pas dans vos retranchements aussi pour une espèce de dépassement de soi?
Oui, il y a de ça.
Au contraire, ça vous bloque.
Mais moi, je m'épanouis pas dans le contre. J'aime pas trop ces rapports de pouvoir, parce qu'en fait, on parle de ça, hein, c'est un rapport d'ego. Je cherche pas à avoir le pouvoir sur un plateau, mais je ne supporte pas quand on étouffe quelque chose. Et oui, j'ai travaillé avec des gens qui
Non, je pense par exemple, on va pas citer de réalisateurs contemporains ou de réalisateurs avec lesquels vous avez eu des problèmes, mais je repense à Hitchcock et Tippi Hedren dans Les Oiseaux, qui avaient une réelle phobie des oiseaux, et il avait réellement cousu par un fil chaque patte d'oiseau à la robe de Tippi Hedren pour qu'elle soit vraiment horrifiée, pour avoir ces scènes dingues des oiseaux. Alors on peut dire il a été horrible, on peut dire elle a souffert, et on peut dire le résultat est un chef-d'œuvre.
Voilà, vous parlez d'Hitchcock, hein. Moi, les enfants avec lesquels j'ai travaillé, avaient aucun talent.
Non, mais je parle du rapport.
J'ai tellement envie de savoir
et
plus.
Boum.
Je parle du rapport comme ça qu'il peut y avoir entre une actrice et son réalisateur.
Il y a toujours une frontière assez délicate, je trouve, quand même, de diriger en même temps. C'est très difficile de diriger un acteur et de pousser un acteur dans ses retranchements. Je pense qu'il y a des moments où, oui, le côté, pas malsain, mais il faut savoir aussi, la manipulation est parfois nécessaire, quoi, pour pousser à certaines situations, dans la justesse dont parlait Jean-Paul tout à l'heure. Mais j'aime pas quand c'est malhonnête. Voilà. Quand c'est pour le service d'un film, oui. Quand c'est pour le service de soi-même, non.
Jean-Paul Roux, vous écoutiez dans ces années 2003.
Et on vous retrouve, Jean-Paul, au César.
2003, César. Ouais. Ouais.
César du meilleur espoir masculin pour Monsieur Batignolle. L'histoire du film, elle est assez intéressante. Comment vous arrivez sur ce projet, en fait?
Comment j'arrive sur ce projet? On est en vacances avec Dominique Farrugia à Avignon, je me souviens. Et on est dans un resto. Il me dit, tiens, il y a Gérard Jugnot qui est pas loin. Il va venir dîner avec nous. Mmh. Et on dîne tous les trois. C'est très agréable. Et il me parle de son film qu'il va faire, qui se passe pendant l'occupation. Moi, c'est une période qui m'intéresse. Donc, on échange là-dessus beaucoup, beaucoup. Voilà. Cut. Et après, je me souviens, je suis à Canal avec Maurice Barthélémy. On a le même bureau. Et j'ai un coup de fil de Gérard Jugnot qui me dit, voilà, j'ai écrit ce film, c'est dont je t'ai parlé. J'ai un rôle pour toi dedans. J'ai un rôle. Non, mais c'est vrai. Il me dit, j'ai un rôle pour toi dedans. Je dis oui. Je t'envoie le scénario. Puis moi, je dis, je passe des essais. Non. Il dit, si ça te plaît, tu le fais. C'est la première fois où je reçois où je passe pas d'essai.
Mais enfin, c'est pas un rôle, c'est le premier rôle.
Non, c'est pas le premier rôle. Hein. Non, c'est pas le premier rôle. Hein, vraiment pas. Parce que le rôle, il est marquant,
joli rôle,
mais...
Ouais. C'est pas le premier rôle.
Non, parce que mon personnage, il meurt au bout de peut-être 20 minutes du film. Hein,
assez... Ah bah super.
Donc, non, c'est vrai.
Ah, mais Nagui a regardé que 20 minutes.
Non, mais là où il a raison,
c'était marquant.
Non, mais là où il a raison, c'était un rôle marquant.
On dit souvent ça, ouais, ouais. C'est marquant, ouais, ouais. C'est vrai. Et voilà, et je me retrouve à faire ce film, ce collabo, donc pas du tout une comédie, rien, de Gérard Jugnot, où j'étais flippé et tout, c'était... Parce que vous dites, mais si c'est trompé, il me fait pas faire d'essais. Je voulais qu'il me fasse faire des essais. Je lui dis, mais je vais arriver sur le plateau. Il va me dire, ah, je me suis trompé, j'en veux un autre.
Toujours le sentiment d'imposture.
Oh bah oui, là oui, oui. Ouais. Quand on débute comme ça. Oui,
et
oui.
Comment vous l'avez bossé ce rôle? Vous avez demandé justement à la troupe comme.
Ah non, pas du tout. On
tout
avait
seul.
Chacun nos trucs.
Avec des amis nazis. On...
Oui, oui.
Ouais. Oui, c'est ça.
J'imagine que sans essais, faut être un peu, faut se préparer en se disant.
Ah ouais, je me préparais.
On peut pas se couper, quoi.
Je regardais beaucoup de documentaires sur la guerre, surtout sur
ça. Alors que Jean-Paul est un féru d'histoire.
Ouais, oui, j'adore ça, ouais. Et sur pourquoi ce moment de basculer du mauvais côté de la barrière, pourquoi toute cette aigreur de ce personnage, parce que c'est un artiste raté. Enfin voilà, tout ça, tout ce travail-là.
On va reparler de Donne-moi des ailes. Le film sort ce mercredi. Alain Bauguin-Dubourg est à ce micro. Bonjour Alain.
Bonjour.
Vous êtes président de la Ligue de protection des oiseaux. Tout à l'heure, j'ai donné ce chiffre qui est peut-être en dessous de la réalité, je ne sais pas. En 30 ans.
Oui, sur le plan européen, 421 millions d'oiseaux ont disparu.
Alors, et comment compter les oiseaux qui disparaissent?
Ah, vous avez des ornithologues, souvent amateurs, mais très éclairés, avec des protocoles scientifiques, et on fait ce qu'on appelle des points d'écoute. C'est pas tant de voir les oiseaux, mais davantage de les entendre, et ça nous permet de savoir s'ils sont présents ou non. Et on voit que, par exemple, il y a eu l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC pour le climat. Ce sont les experts de la biodiversité qui sont venus en France au mois de mai dernier, ils nous ont expliqué que sur 8 millions d'espèces animales et végétales identifiées, 1 million d'entre elles étaient en déclin. On vit l'agonie du vivant comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Alors on a pris conscience pour la question climatique, c'est très bien, il faut agir. Mais pour le vivant, on a l'impression qu'il n'y a que les espèces qui nous intéressent, qui sont utiles. Ouais. La petite abeille, on l'adore. Elle butine et elle va polliniser. Alors, elle est vachement utile. Il faut surtout pas toucher à l'abeille, alors qu'elle est en déclin. Mais tous les autres, le gypaète barbu, la tortue d'Hermann, le vison d'Europe, on se dit à quoi ça sert. Et on n'a pas compris que c'est le tissu du vivant. Et que si on retire les fils, le vivant va se déchirer et on ne s'exonérera pas. La cohabitation de l'homme avec le reste du vivant ne peut pas être hors sol. Voilà, on a besoin. Et puis je crois qu'au-delà, sans être trop long, on est les maîtres de la planète aujourd'hui. On a un devoir éthique à l'égard du plus faible. Et le plus faible, c'est le reste de la vie sauvage. Alors ce film, pour y revenir, est intéressant à plusieurs titres. D'abord, il est très beau. Et je disais hier, quand on a fait l'avant-première, ça me rappelait un message de Victor Hugo qui disait « Le beau est plus utile que l'utile ». Et c'est vrai que la beauté nous transporte. La deuxième chose qui me paraît séduisante, c'est que c'est un film qui nous éclaire. Voilà, on regarde l'état des lieux, on voit qu'il y a un déclin de ces espèces et derrière les oies qui sont hautement symboliques, c'est tout le vivant, toute la biodiversité. Et puis la troisième, c'est le message d'espoir. Si un gamin est capable de se dire « ben moi j'y vais », tout le reste doit se dire de la population « allons-y ». Agissons. Donc on fait un constat et on a envie d'agir.
Alors,
c'est pas mal.
Justement, le rôle de l'homme, on connaît sa responsabilité,
oui.
Sur les vies qui disparaissent, les espèces qui disparaissent, sur le réchauffement climatique, oui. Sur le problème de biodiversité. Est-ce que cette responsabilité peut se retourner justement pour faire du bien, sauver et oui. Remettre dans le droit chemin, sans mauvais jeu de mots, oui. Avec ce que fait Christian Moulec, remettre dans le droit chemin justement la migration de certains oiseaux pour éviter de passer par des zones dangereuses, que ce soit ouais. L'avion, que ce soit la pollution, que ce soit les chasseurs, pour éviter ça et s'en sortir.
Alors, sur le principe, c'est pas exclu. Moi, je vous dis très franchement que je suis un poil réservé. Pourquoi ? Parce qu'on va devenir Dieu. On va se dire, bah tiens, on va déplacer telle ou telle espèce, on va modifier tel ou tel comportement, tel ou tel milieu naturel.
On ne crée pas une espèce, on la protège.
Oui, non, j'ai bien compris. Alors au-delà, à partir du moment où une espèce est à l'agonie, l'Ouanen dont on parle, il en reste 22 000 individus, peut-être 30 000. C'est effrayant. Elle peut s'éteindre. Je rappelle quand même que le pigeon migrateur américain, qui est l'oiseau qui a été le plus nombreux sur la planète, au 19e siècle, c'était des milliards d'oiseaux. Et on raconte que quand les oiseaux se déplaçaient, ils obscurcissaient le ciel tellement ils étaient denses. On les a tués à coups de bâton, après à coups de fusil. Le dernier pigeon migrateur américain est mort en 1914 au zoo de Cincinnati. Et quelques années avant, il restait encore des milliers de pigeons migrateurs. Et on a la naïveté de croire qu'il faut un mâle et une femelle, comme dans l'Arche de Noé, pour pérenniser une espèce. Eh bien, vous avez beaucoup d'espèces animales qui, à partir du moment où elles ne sont pas en nombre, n'éprouvent plus le besoin de la reproduction. Et l'espèce s'arrête et disparaît. Donc, j'en reviens à ce projet. Actuellement, il y a des divergences scientifiques sur l'opportunité de détourner le chemin des oies pour les amener dans des lieux plus acceptables, moins violents. Je crois qu'il faut qu'on remette tout sur la table avec les scientifiques. Nicolas Vanier a peut-être trouvé des budgets pour engager une grande campagne.
Oui, c'est un projet aussi.
Il y a un projet autour du film. Voilà. Ouais. Mais il y a beaucoup, vous avez les Allemands, les Norvégiens, les Finlandais, il y a même les Russes. Il y a beaucoup de scientifiques, il faut qu'ils soient tous d'accord pour qu'on aille de l'avant.
Il y a quelque chose que j'aimerais que vous nous expliquiez. Quand vous avez un tout petit peu, vous êtes moqué des abeilles en disant tout le monde veut défendre les abeilles. Oui, il y a cette fameuse phrase d'Einstein qui disait, elle est fausse, cette phrase.
Elle est vraie, mais bon, quand les abeilles disparaîtront, l'homme disparaîtra.
Deux ans.
Voilà.
Il restera deux ans l'humanité pour vivre.
On lui prête cette. Non, il a dit Einstein une chose très belle qui nous ramène au film. Il dit le monde n'est pas tant dangereux à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et qui laissent faire. Et dans ce film, on regarde une situation et on ne laisse pas faire.
Mais les abeilles, on sait que leur force, justement, c'est la pollinisation, c'est la biodiversité qui est en jeu. Qu'est-ce qui est en jeu avec des oies ou avec toutes les espèces d'animaux
dont vous avez cité ? Mais je vous l'ai dit, Nagui, je crois qu'on a un devoir éthique à l'égard du plus faible. Et on a cru naïvement qu'il y avait des espèces utiles et d'autres qui, finalement, étaient un peu indifférentes et dès lors...
Mais pardon, c'est le cas depuis des millénaires.
C'est ce qu'on fait avec les hommes, d'ailleurs. C'est ce qu'on fait avec les hommes aussi. Il y a une sorte de hiérarchie entre ceux qui sont importants et ceux qui sont moins.
Oui, mais c'est ce que je condamne.
Je vois pas ce qu'il y a de choquant.
Contraire. Et alors, plus la science avance, vous voyez par exemple l'imprégnation des oies dont on a parlé, c'est un prix Nobel. Conrad Lorenz, j'ai eu la chance d'aller le filmer en Autriche, qui avait trouver le phénomène de l'imprégnation, et plus on avance dans la connaissance, plus on se rend compte de l'interaction entre les différentes espèces animales, végétales et la dépendance de l'homme.
Quel est le plus gros danger pour ces espèces qui sont en train de disparaître ?
Actuellement, c'est très clairement l'agriculture intensive avec son cortège de produits chimiques. C'est très clairement avéré.
Que le réchauffement climatique, plus que
le réchauffement
la chasse.
Pose un problème. Je vais vous dire, le réchauffement, par exemple, les cigognes blanches, il y en a près de 1000 qui restent en bordure méditerranéenne, qui ne partent plus en migration actuellement parce qu'elles trouvent l'alimentation nécessaire, etc. On peut dire, dans l'état actuel des connaissances, que c'est plutôt bien pour les cigognes, parce que la migration, c'est la mortalité. La première année de migration pour les cigognes, c'est plus de 50% de mortalité.
Le problème, c'est qu'à un moment donné, avec le réchauffement climatique, justement, ce dont certains animaux se nourrissent va disparaître aussi.
Ça, c'est effrayant. On le voit déjà, il y a un décalage, par exemple, entre le pic de naissance des chenilles, dont se nourrissent les petits oiseaux qui arrivent d'Afrique et qui vont donner la vie. Et quand il y a les poussins dans le nid, tout était synchronisé avant. Il y avait le pic des chenilles et il y avait les poussins qui avaient faim. Aujourd'hui, les chenilles vont naître 3 semaines avant que les poussins naissent, donc il y a un décalage et il n'y a plus assez d'alimentation. La réserve des 7 îles dans le nord, à Perros-Guirec, qui est gérée par la LPO au passage. Il y a des footbassins qui vont chercher des poissons pour nourrir les poussins. Ils vont mettre une journée de vol à peu près, ils reviennent au nid pour nourrir. Les poissons sont remontés vers le nord pour fuir le réchauffement des eaux, donc ils vont mettre 2 jours, parfois 3 jours.
Est-ce que c'est vrai qu'en France, on autorise la chasse sur beaucoup plus d'espèces que dans n'importe quel autre pays ?
Bon, je voulais pas en parler parce que ça fâche, mais Nagui. Non, Sérieusement.
Bah oui.
On chasse en France 64 espèces d'oiseaux différents. Alors contre moyenne... la moyenne, c'est 20 à 30 espèces dans le reste de l'Europe.
C'est fou.
Et sur les 64 espèces, vous en avez une vingtaine qui figurent sur la liste rouge de l'Union internationale de conservation de la nature, c'est-à-dire qui sont à l'agonie.
Mais c'est honteux.
Je vais prendre, c'est inacceptable.
Bah oui,
c'est honteux. Le président Macron s'était engagé, j'en avais parlé avec lui quand il était candidat à faire l'élémentaire, retirer les espèces à l'agonie des espèces chassables. Non seulement il les a pas retirées, mais ils enfoncent le clou pour maintenir la chasse. J'ai été, au nom de la LPO, devant le Conseil d'État pour une espèce qui s'appelle le courlis cendré, dont la ministre Elisabeth Borne voulait autoriser l'abattage de 6000 oiseaux. 6000 oiseaux. Non mais c'est vraiment... Eh bien, on a fait suspendre devant la plus haute juridiction
de
France.
Bravo.
Oui, mais c'est inacceptable. On arrête de taper. Oui. La tourterelle des bois, qui a été braconnée pendant 20 ans dans le Médoc, en pleine période de reproduction, le 1er mai, elle a perdu 80% de ses populations. L'Europe nous demande de cesser le feu. Que fait la France ? Elle autorise l'abattage de 18 000 oiseaux.
Eh ben, j'avais envie de vous entendre dire. Comment aider la LPO, très rapidement ?
Adhérer à la LPO, adhérer à toutes les associations de protection de la nature. On a besoin d'être nombreux pour être davantage entendus.
On va mettre l'adresse sur le Facebook de l'émission. Merci beaucoup Alain Bruin.
Merci.
Tanguy Pastureau, bonjour. Vous
allez
nous parler d'art contemporain.
Oui, ce sont ces œuvres en plastique représentant des choses absurdes comme des tourterelles des bois géantes, des ballons ou le programme de Nicolas Dupont-Aignan. Exemple, vendredi à Paris a été inaugurée une œuvre offerte par Jeff Koons, offerte contre 3 millions d'euros. La devise de Jeff Koons, plaisir d'offrir, joie de recevoir.
On en parle après les infos. C'est la bande originale, soyez les bienvenus avec Léla Cadeau-Boudin.
Bonjour à tous.
Marina Rollman.
Bonjour.
Daniel Morin.
Et salut Marina.
Tom Villa.
Bonjour.
Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Et nos invités Mélanie Duté et Jean-Paul Roux. Oh. Donne-moi des ailes. Ce film sortira ce mercredi. Un film réalisé par Nicolas Vanier, que l'on peut qualifier de réalisateur, d'explorateur, d'écologiste,
d'aventurier,
de protecteur de la nature, d'humaniste.
Ouais.
Toutes ces valeurs sont là, plus les valeurs familiales. On l'a dit avec Louis Vasquez, qui est absolument impressionnant pour son premier rôle au cinéma.
Ouais.
Je ne sais pas. Oui.
Ouais, premier.
Premier.
Carton. Lilou Fogli, elle a participé aussi au scénar de cette histoire. Elle joue le rôle d'une journaliste dans l'adaptation et les dialogues avec Nicolas Vanier. Joue le rôle d'une journaliste comme une espèce de, on va dire quoi, lanceuse d'alerte,
ouais,
c'est ça.
C'est ça. Elle va voir son journal en disant, voilà ce qui se passe, la nature, voilà. Et les journaux s'en foutent évidemment, mais ce qui est un peu le cas quand vous regardez les journaux, vous voyez souvent des unes avec qui parlent des vrais problèmes, de ce qui se passe sur la planète et tout. Vous avez une une avec.
Si, il y en a quelques-unes.
En temps.
En ce moment, si, en ce moment, on parle beaucoup
climat. Les journaux, je parle presse écrite.
Là, ce qu'il faut dire dans le film,
bah oui,
si on est réaliste par rapport au personnage de Lilou Fogli, c'est que c'est la seule, hors cercle proche, à croire à votre projet.
C'est ça.
Oui.
C'est la seule.
Voilà, c'est la seule à y croire.
Ouais.
Après, c'est
et
super.
Et même son rédacteur en chef, il dit ça intéresse personne.
Oui.
Et qui est proche de votre personnage, puisqu'elle aussi va agir sans les autorisations supérieures.
Exactement. Bravo.
Autorisation supérieure jouée par Philippe Magnon, qui est juste parfait.
Sauf qu'au début, c'est pas complètement gagné, quoi. C'est-à-dire que la journaliste, elle part là-dedans parce qu'elle est un peu utopiste, elle aussi en fait.
Aussi. C'est comme ça qu'on avance. Hein. Ouais. C'est avec ça. Hein. Ouais.
Et l'utopiste qui est Christian Moulec, puisque c'est son histoire, il est à l'origine du scénario co-signé avec Mathieu Petit. Donc il est extrêmement bien placé pour raconter tout ce qui est vrai dans ce film. On y rajoute l'histoire familiale en plus entre Mélanie Douté et vous, Jean-Paul Rouve, avec l'histoire de cet adolescent que l'on sort finalement de ses jeux vidéo pour à l'occasion de garde partagée.
Oui, c'est ça, garde partagée.
Non, mais chercher l'expression de garde partagée.
C'est la punition d'aller chez papa.
Il n'a plus de wifi, donc il se retrouve bien obligé de suivre un peu son père, et ils vont se retrouver grâce à ça, et même il va même me dépasser, aller plus loin que moi encore.
C'est extrêmement émouvant, bien joué, et puis il y a des images encore une fois très 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 impressionnantes. Vous prenez ça dans un grand écran, sur un grand écran, vous le prenez en plein visage. La musique étant signée, tout à l'heure on l'a écouté, mais j'ai pas cité Armand Amar. Voici Monsieur Tanguy Pastureau.
Donc vendredi, Tanguy, ont été inaugurées les tulipes de Jeff Koons.
Oui, alors d'abord pour les quatre ringards qui sont restés bloqués sur le tableau, le radeau de la Méduse, qui représente, je crois, l'arrivée des candidats sur l'île de Koh-Lanta. Qui est Jeff Koons? Eh bien, c'est un artiste de 64 ans qui travaille le plastique, cette matière dont sont composés les gobelets pour se rincer les dents ou la face de Mickey Rourke. Il fait des œuvres assez laides qui font gerber les esthètes, de gros lapins pleins de couleurs, ce qui fait que si vous avez un Jeff Koons installé devant chez vous, sans prendre d'acide, vous avez la même vie que Lewis Carroll le jour où il s'est dit « Tiens, je vais écrire un conte à propos d'une fillette, Alice, qui parlerait avec une chenille géante en train de fumer de la weed. » Mais l'époque étant au clinquant, Jeff Koons écoule ses œuvres comme un vendeur de pins, un papa plus une maman dans une manif anti-PMA, ou deux papas plus une maman chez les traditionnalistes partouzards, ou deux papas plus trois mamans plus un teckel appelé Fifi chez les catholiques ayant une vision trop personnelle de la Bible, qui ont interprété à leur sauce le discours d'amour universel porté par Jésus. Bref, Koons prend une blinde à chaque vente. En 2018, 28 millions de dollars pour une sculpture représentant un chien. Alors souvent, ce sont des mécènes qui se les procurent, hein, comme François Pinault, dont la fortune est de 29 milliards. Donc pour lui, un Koons à 30 millions, c'est l'équivalent pour nous de l'achat de 3 boîtes de petits pois, plus du PQ de la marque Repère. Un Pinault aussi trouve ça nul, bien sûr. Il dispose de la même vision que nous. Quand il aperçoit un Koons, les poissons qui vivent dans son corps, des œufs d'esturgeon avalés en 84 qui ont éclos et n'ont jamais trouvé la sortie, menacent de lui remonter jusqu'à la glotte. Mais il voit ça comme un investissement. Un Koons à 30 millions aujourd'hui, demain en vaut 60, puis 200. Et à terme, dans le salon, vous avez 7 ballons en plastique innommables, le chat est mort en les voyant, votre femme vous a quitté pour un type ayant meilleur goût, mais vous êtes riche. Bref, il y a 3 ans, Jeff Koons a refourgué à la ville de Paris une œuvre de 10 mètres de haut, un bouquet de 11 tulipes tenues par une main géante. De plus moche que ça, il y a juste un bouton d'acné ou la feuille d'imposition de Philippe Risoli. Un cadeau, a-t-il dit. Cadeau relatif, puisqu'il a facturé 3 millions. Il ne sait plus compter qu'en millions. Hein, sur le camp, sur le bon coin, il voit un clic-clac à 110 euros. Il dit « Je ne comprends pas hein. ». Il a été marqué par les attentats du Bataclan. S'est dit « Il n'y a pas de raison qu'il y ait que le 11e arrondissement qui souffre ». Et il a proposé à Anne Hidalgo de mettre ses tulipes près du Trocadéro, un lieu où des rats dévorent des migrants qui vendent des tours Eiffel miniatures. Là, tout le monde a hurlé. Anne Hidalgo, pour se défendre, a déclaré « Tout est grand à Paris, les émotions, les polémiques ». Elle a dit ça monter sur des échasses. Hein. Et les tulipes, vendredi, ont été inaugurées près du Petit Palais, donc un peu planqué derrière tout ça. Donc là, tout va bien. Hein. Le truc a été financé par des mécènes privés. Koons a refilé de l'argent à la ville de Paris pour l'entretien, parce que les pigeons, ces bêtes absurdes qui ne connaissent rien à l'art, sont déjà en train de déféquer dessus. Hein. Donc youpi, tralala, c'est réglé, on pourrait dire vive la vie, quoi.
Sauf que les Parisiens sont nombreux à protester depuis vendredi.
Oui, mais parce que le Parisien est comme ça. Oui. Il n'aime rien. Il râle, il tire la tronche, c'est une crevure. Parfois, vous allez dans le métro, vous voyez la tête des gens, vous criez « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Un radicalisé a sorti un objet contendant ou pire, a diffusé une interview de Jean-Pierre Bacri dans laquelle il parle des régimes détox. Et là, vous réalisez que ce sont leurs têtes normales. Hein, donc, depuis 3 jours, tout le monde chouine. « Oh oui, le Jeff Koons, c'est affreux. Oui, Paris mérite mieux. » Alors que c'est un cadeau. Or, le principe même du cadeau, c'est que c'est moche et qu'on n'en a pas besoin. Hein, il y a un Noël où moi, j'ai une Wonderbox séjour en yourte. Mais je fais pas tout ça. France Inter, le public bourgeois bohème, la fréquentation de gens sublimes comme Mélanie Doutet. Mais je rencontre aussi Jean-Paul Rouve. Hein, pour finir par vivre comme Zaz en début de carrière. Non mais quand on reçoit un cadeau, on dit merci, j'en rêvais, et on réplique en offrant à l'autre un cadeau aussi nul. Comme des places pour un match de Ligue 2 où le dernier Marc Lévy a un oncle qui adore Balzac. Le Parisien trouve tout moche. Même la grande roue place de la Concorde, il a fallu la retirer. Du coup, Marcel Campion se présente aux élections. On a engendré un monstre. Hein, sur sa liste, il y a déjà Jean-Marie Bigard. Mais c'est un coup fatal porté à la démocratie. Les mecs vont débouler en meeting en slip avec deux pétomanes et une femme à barbe. Pire, un philosophe. Ces gens jamais invités sur Fun Radio. Yves Michaud voit dans l'œuvre de Koons non pas 11 tulipes, mais je le cite, 11 anus. Hein, y aurait un sens caché. Alors, j'ai de nouveau regardé l'œuvre, je vois toujours des tulipes. Ouais. Hein, mais c'est peut-être un problème que moi j'ai. Si tout le monde voit des anus et moi des fleurs, c'est que je confonds. Et si un ami me montre son anus, ce qui est courant dans les milieux dans lesquels j'évolue, je risque de m'écrier « Mais quelle magnifique Marguerite hein, !» ou « Pâquerette », dans le cas où il n'aurait pas auparavant ingéré deux poppers. Oh, le métier de philosophe, Nagui, c'est ça, un enfer. Toute votre vie, vous pensez...
12h16, vous êtes malade.
Ben 12h16, c'est bon, les enfants, c'est à l'école, on s'en fout. Non, mais le métier de philosophe, c'est un enfer. Toute votre vie, vous pensez, vous lisez des Grecs morts. Certes, à France Culture, les gens vous font une haie d'honneur pour vous accueillir avec des pom-pom spam girl en train de crier je veux un S, je veux un C, je veux un H, je veux c'est trop compliqué. Bon, ça c'est pas Schopenhauer. Hein, mais bon, globalement, philosophe, vous galérez et vous finissez au crépuscule de votre existence parce qu'Yves Michaud a 75 ans en admirant des tulipes par voir des anus, hein. Donc il vaut mieux ne pas réfléchir et profiter du cadeau à 3 millions de Jeff Koons, seul cadeau à la con qu'on peut pas revendre sur eBay.
Merci.
Et on trouve Tanguy le 9 novembre à Château-Renard, c'est à côté d'Avignon.
Allez, des questions sur la culture en ce moment. Il a déclaré « Dommage, elle ne m'appartenait plus », qui est l'auteur de ce regret. Quelqu'un a dit « Dommage, elle ne m'appartenait plus ».
Ah, c'est Banksy.
Exactement, oui. Jean-Paul Roux.
Ce tableau là qui était vendu.
Avec les singes. Parlement des singes.
Et record de vente, oui.
11 millions d'euros, oui. Jeudi soir. L'estimation était à 9, elle est passée à 11. Et il a dit, dommage, elle ne m'appartenait plus, le record, parce que sinon, ça aurait été dans sa fouille. Vous êtes branché à Art Moderne, d'ailleurs, Mélanie, ou pas?
Pas plus que ça. Je m'y intéresse, mais je suis pas branché, non.
D'accord. Vous allez à la FIAC, vous allez dans... vous aimez ça? Ou par exemple, Koons, vous êtes allé voir
bah,
ou pas,
là, par exemple, je trouve ça très très laid, ce bouquet d'anus.
Non, c'est des tulipes.
Jean-Paul,
même j'adore l'art contemporain. J'y connais pas grand-chose, attention, hein, mais je vais à la FIAC, je m'y intéresse, James Koons, ça m'intéresse, tout ça m'intéresse beaucoup. Je vais à Paris Photo...
Et vous pouvez comprendre que ça choque, ce bouquet de tulipes, ou pas?
Oui, bah il faut que ça choque. Moi je trouve ça très beau, je trouve ça sublime, moi. Mais voilà, ça me plaît, c'est ça l'art, c'est ça, ça a besoin de ça.
Il faut que ça choque. Aussi. Non, mais j'aime bien cette formule. Il faut que ça choque.
Il faut que ça chauffe, faut que ça remue, faut que ça crée.
Faut pas oublier qu'à l'époque les colonnes de Buren, la pyramide du Louvre ou même la Tour Eiffel, choquées
complètement. C'est vivant, l'art est vivant, ça, et c'est comme ça qu'il doit être.
Dans quelles circonstances particulières Brad Pitt est allé rencontrer dernièrement Kanye West?
Nu.
Mais qu'est-ce que t'as dans
pendant la messe du dimanche chez Kanye?
Exactement.
Oh là là. Pendant la messe?
Il fait des messes tous les dimanches, Kanye West. Il fait des espèces de
prêches.
Soul. Ouais, il y a des groupes qui font de la musique, c'est très beau. J'y étais d'ailleurs il y a une semaine.
Il a totalement pété un câble, on est d'accord, hein, Kanye West. Hein.
Kanye West, c'est intéressant ce qu'il fait musicalement en prenant du gospel, mais ouais.
Ouais, d'accord. Ok.
Non, c'est quelqu'un qui a des troubles psychiatriques. Je crois qu'on peut se mettre d'accord.
C'est ça. La célébrité, ça peut. Mais écoutez, vous êtes dit à un moment donné, il faut pas que je pète un câble. Il faut pas que je passe à côté de.
Oui, c'est vrai. Alléluia. Non, mais ça dépend de son entourage quand même. Et puis ça dépend de rapport sain qu'on a à la vie. Voilà. Mais bon, là, on parle d'un niveau quand même. C'est difficile de pas péter un plomb, hein.
Ouais. Après tout, on peut aussi se demander est-ce qu'on est éduqué pour vivre ce qu'il vit lui, Kanye West. C'est-à-dire à quel moment ses parents on peut lui dire tu sais quoi, il faudra que tu te calmes des foules entières crient ton nom, si tu gagnes, je sais pas, des millions. Enfin, il y a matière à péter un câble.
Ah oui, il
va très très loin, non? J'ai l'impression.
Il pète un câble fort.
Mais il est très proche de Trump en plus, non? C'est lui, hein?
Ça fait deux fois alors qu'il est fou. Lenny Kravitz a lancé un appel surprenant sur Twitter. Pour retrouver quoi?
Il a perdu une paire de lunettes.
Exact. Son coiffeur, il a perdu depuis longtemps.
Il y a eu Léos Carax qui avait perdu son chien, et là, il y a aussi Lenny Kravitz avec ses lunettes. Ouais.
Exactement.
Mais qu'est-ce qu'elles ont de spécial, ces lunettes?
En tout cas, il y tient. Elles sont anciennes, elles appartenaient à un membre de sa famille, donc il y tient. Il a lancé un hashtag Kravitz Glasses sur Internet, en espérant pouvoir la récupérer. Vous m'envoyez simplement une information et voilà.
Je vais les chercher.
Il ne promet aucune, comment on appelle ça, prime?
Récompense,
merci.
Faut les garder.
Mais quand même. On sait que Jean-Paul Rouve était fan de Bruce Lee, vous étiez fan de personne.
Non, enfin, j'aime beaucoup Stevie
Claire,
Wonder.
Quand même.
Oui, c'est vrai, j'aime bien. Oui, j'aime bien. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette chronique tout à l'heure. Je suis complètement reconnue dedans. Mais non, Stevie Wonder, mais j'ai pas de jamais eu de poster de. Non.
Avez-vous déjà eu un autographe? Avez-vous déjà demandé un autographe à quelqu'un?
Non.
Dans votre vie?
Non, jamais. Non, mais j'étais ravie. J'ai rencontré un jour Geoffrey Roche. J'étais assise à côté de lui dans un restaurant. Je sais pas si vous voyez qui c'est. Populairement, c'est le plus film populaire. C'est dans Les Pirates des Caraïbes, celui qui joue le méchant. Celui qui joue Shine aussi, ce pianiste fou. J'adore cet acteur. Et voilà, je l'ai rencontré, j'étais ravie de lui serrer la main. Mais voilà, j'ai pas demandé un autographe, un bout de papier. Non, mais c'est un souvenir pour moi, mais c'est pas...
Et la démarche d'aller voir un réalisateur en disant « J'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais travailler avec vous », ce qui n'est pas une démarche de demander un autographe ou un selfie, ce qui est une démarche simplement de déclarer
son admiration et son respect. Oui, ouais, bien sûr, oui, ça, je trouve ça bien, parce que c'est agréable quand on... Ça m'est arrivé une fois qu'on me le fasse. Non, mais c'est flatteur, donc j'aime... Ouais, je trouve ça chouette.
Jean-Paul, vous aussi, vous êtes allé vers quelqu'un en disant « J'aimerais beaucoup travailler avec vous ».
Je le faisais pas avant, et je le fais de plus en plus. J'envoie des mails, en fait,
par pudeur, c'était quoi?
Oui, c'est ça, par pudeur. Je lui dis, oh, ça, faut pas faire ça. Puis oui, en effet, quand on le reçoit, ça fait plaisir. Donc je me dis, voilà. Donc je demande souvent, je appelle pas, je demande le mail à mon agent. Je dis, t'as le mail de tel metteur en scène. Je dis, voilà, j'ai vu ce film, j'ai vu votre film, j'ai beaucoup aimé, voilà.
Et à l'inverse, comment gérez-vous quand quelqu'un vous dit, j'aimerais faire partie des Tuches? Et il y a un Tuches 4 qui est prévu ou pas?
Oui, on est en écriture, là. On est en fin d'écriture avec
Alors,
la bande.
Comment réagir lorsque vous connaissez quelqu'un? Par exemple, Mélanie Douté vous dit, j'adorerais faire une apparition dans les Tuches 4, c'est gênant parce que d'un coup c'est une copine, vous avez déjà travaillé plusieurs fois ensemble et c'est pas uniquement sur Donne-moi des ailes.
Ça se dit moins ça entre copains, je sais pas pourquoi. En revanche, il y a plus cette pudeur là.
Entre vrais copains.
Ouais, ça se dit, on se dit pas ça entre nous, c'est rare. Non, ça arrive pas, mais moi je suis content quand il y a quelqu'un qui me dit. Les Tuches, je réalise pas tout ça, c'est pas pareil, donc j'ai pas ce pouvoir là non plus. Pour mes films, quand je fais un film en tant que réalisateur, ça me touche quand il y a un comédien qui me dit « j'ai vachement aimé ton film et s'il y a quelque chose pour moi dans le prochain, j'aimerais beaucoup travailler avec toi ». C'est très touchant, ça. Ouais.
Touchant, il l'est un peu moins, mais bon,
ça dépend.
On peut pas l'éviter. Voici Daniel Morin.
Et pour commencer cette chronique, j'ai besoin d'une réponse à une question que je me suis posée pendant le visionnage du merveilleux film de Nicolas Vanier pour lequel nos chers invités sont venus nous voir aujourd'hui. Pourquoi avoir casté Jean-Paul Rouve et pas Jeff Tuches, justement, pour ce rôle d'ardent défenseur des oies migratoires?
Parce que moi, les oies, tu vois, moi, je m'en fous qu'elles volent comme un GPS. Moi, les oies, j'ai pas envie de casser les pattes avec l'obligation d'emprunter un itinéraire. Mm-hmm. Moi, les oies, je les aime libres. Et puis, surtout, j'aime les bouffer. Ah,
merci, Jeff. Je comprends mieux maintenant le choix de Jean-Paul Rouve. Allez, passons à mon coup de gueule à présent. Ah, les enfants. Les enfants sont formidables. Les enfants sont merveilleux. Les enfants sont généreux. Que dalle ! Ouais, les enfants, c'est des petits salauds. Et puis c'est tout. J'en veux pour preuve l'expérience traumatisante que j'ai vécue hier après-midi dans un théâtre pour mioches. Je vous la fais courte. Il y a une gentille princesse qui est en train de jouer à la poupée. D'un seul coup, il y a une méchante qui se pointe et qui se met à beugler. T'es encore en train de jouer à la poupée ? Là, la gentille princesse cache ses poupées et répond non. Et là, tous les morveux se mettent à hurler. Si ! Elle jouait à la poupée ! Elle jouait ! Nom de Dieu, les sales petits collabos ! Petit fumier, va ! Ouais, parfaitement, les enfants sont des collabos. Tu mets 10 gosses ensemble, ça devient une milice. Heureusement que pendant l'occupation, les nazis n'ont pas pensé à questionner les gosses, sinon la France était foutue. Salut les enfants ! Vous n'avez pas pu passer des maquisards par hasard ?
Si, ils sont dans la grange !
Bande de petits fumiers. En 45, ma grand-mère, elle a été tondue pour moins que ça.
Moi, c'est mon grand-père qui a couché avec les boches.
Oui, Jeff, et alors ?
Alors, comme il était chauve, on a quand même tondu ma grand-mère.
Comme moi, alors.
Attends, aussi, les boches, ils t'ont tondu.
Non, c'est pas ce que je voulais dire.
Je te l'ai toujours dit, méfions-nous des nazis. Comme ça, ils ont l'air sympas. Mais en vrai, c'est des fumiers qui en veulent à tes cheveux.
Merci, Jeff.
Alors, de rien.
Pour en revenir aux enfants collabos.
Si t'as besoin de moi, je suis là.
Je t'appellerai. Et pour l'instant, on revient aux
enfants. Vraiment, je suis là. Hein.
Mais je compte vraiment sur toi. Pour en revenir aux enfants.
Parce que tu m'as dit, tu peux parler quand je veux.
Mais c'est vrai. C'est toi l'invité.
D'accord.
Hier, à cause de la gentille...
Je t'en prie.
Ok, merci. À cause de la gentille princesse s'est fait pourrir par la vilaine. À cause de, voilà, et ça ne les a pas traumatisés une seconde. Je suis sûr qu'on n'a pas idée du nombre de lettres anonymes écrites aux impôts par des mioches. Ils doivent se régaler au fisc quand ils reçoivent une lettre dont l'écriture est incertaine.
Monsieur l'inspecteur, mon voisin du dessous est non imposable et pourtant... Il change de voiture de sport tous les ans. Son appartement ne fait pas 60, mais 600 mètres carrés. J'espère que ma lettre servira à la France. Son nom, c'est Nagui.
Non, mais sérieux, on leur apprend pas le sens des valeurs à l'école, à ces petits cancres-là.
Les gosses, c'est de la merde!
Merci, Jeff. Et merci à Jean-Paul Rouve pour cette très, très active participation.
Bravo. La bande originale avec Nagui.
En un mot, Donne-moi des ailes, le film sort ce mercredi 9 octobre avec Mélanie Douté, Jean-Paul Rouve, Louis Vasquez, Fred Sorel, Lilou Fogli.
C'est une rêverie. Ouais.
En un mot, Daniel Morin.
Ah, s'il faut se mettre à l'UM pour sauver les oies, je peux dire qu'elles peuvent toutes crever.
Marina Rollman.
Mais moi, je vais aller le voir, j'avais déjà les larmes aux yeux pendant la bande-annonce. Je crois que j'avais pas beaucoup dormi, mais quand même, ça a l'air vraiment très beau.
Conjonctivite, ouais. Tanguy Pastureau.
Bah, rien, parce que j'ai cru que c'était une émission sur le nazisme, donc je suis passé à côté.
Tom Villa.
Moi, j'ai un nécessaire.
Ouais, absolument. Et ça fait du bien, on rêve, on a le sentiment d'être avec vous dans cette ULM. On a l'impression de faire partie de votre famille, à Mélanie et vous. Ouais, c'est ça.
C'est le cri des rameuter les lois.
Voilà. Exactement. Et à propos de ce tournage, j'ai oublié de le préciser, mais vous avez invité un petit garçon qui s'appelle Edgar sur le tournage de Donne-moi des ailes.
Bien sûr, Edgar. Edgar que j'ai rencontré pour le Téléthon. Ce qui est Edgar, un garçon qui me disait, bah voilà, moi je suis handicapé, je suis en fauteuil, et est-ce que je peux être réalisateur? C'était ça son truc. Bah je dis, bah oui, évidemment tu peux, il y a aucun problème. Donc il est venu sur les tuches en tant qu'assistant, et puis j'essaie de le prendre sur tous les films. Il vient et là il a fait son court métrage. Et là, génial. Je vais aller le rencontrer, là, pour le Téléthon, je vais le revoir. Mais je tiens à préciser quand même que c'est pas de la pitié, tout ça. C'est pas parce qu'il est en fauteuil qu'il est sur les films. Il est là parce qu'il est efficace, parce qu'il est bon, parce que c'est un très bon assistant. Et c'est ça, il faut le dire, c'est très important.
Bah, ça a été notre troisième assistant réalisateur sur Munch, avec Isabelle.
Bah voilà,
Nanty.
Il fait Munch, Isabelle l'a rencontré. Vraiment, il est formidable, hein.
Ouais, il a beaucoup d'humour, on lui fait plein de blagues
et
tout le temps.
Et Jean-Paul aussi est formidable, puisque tu seras le parrain de ce Téléthon, le 6 et 7 décembre.
Très honoré, très, très fier d'être à tes côtés. Pour cette belle soirée, ce beau moment. Ouais.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh oui, désolé pour désolé pour nos auditeurs nazis qui encore une fois se sont trouvés stigmatisés par la blanchiasserie France-Intérienne. Heureusement, on va essayer de vous réhabiliter dès demain en recevant deux ultra-fachos convaincus, Chiara Mastroianni et Christophe Honoré. Désolé pour tous les réalisateurs qui avaient prévu de proposer des rôles habillés à Mélanie Douté, vous l'avez compris, ça ne l'intéresse pas. Désolé pour Nagui, j'ai testé mon ULM à la pause et tout marche. Je vais donc pouvoir te raccompagner en Égypte. T'auras une belle carrière quand même, mais là, faut y aller, monsieur. Et enfin, désolé pour les sonotones de nos auditeurs âgés qui n'ont pas résisté à ce son étrange. Et voilà, croisement parfait de l'oiseau qui crève et de la porte qui grince. Attention les vieux, j'en remets une couche. Ça s'appelle le hurlement rollmanien.
Marina, merci beaucoup Mélanie Douté, merci Jean-Paul Rouve. Bravo pour Donne-moi des ailes, réalisé par Nicolas Vallier. À vos côtés, Mélanie Douté, Jean-Paul Rouve, Louis Vasquez pour la première fois au cinéma, Fred Sorel, Lilou Fogli, entre autres. Et c'est un film qui fait du bien. Demain, en effet, Chiara Mastroianni nu et Christophe Honoré, il est très nu quand même. Hein,
en Asie.
Ouais. Seront nos invités. Et tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand. Pardon pour le retard.
Salut les amis.
Ciao. Thank you.